Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous, et tout d'abord un mini tremblement de terre hier en pays royanais. Une secousse a été ressentie suite à un séisme survenu à 14h34 précisément. Selon le BCSF RENAS, le site national d'information sur la sismicité de la France, sa magnitude 3,6. L'épicentre était situé dans l'estuaire de la Gironde entre Saint-Palais et l'île sans nom. Risque maximal encore pour les baïnes aujourd'hui dans notre département. L'alerte concerne Grand Village, Saint-Georges-d'Oyron, Saint-Trojan, La Tremblade et les Mattes. La préfecture rappelle que les plages de Charente-Maritime ne sont plus surveillées. Il est donc essentiel de redoubler de vigilance. A surgir une fuite de gaz hier matin vers 9h dans la rue des Compagnons du Tour de France. Elle s'est produite après un incident lié à un engin de nettoyage de rue, indiquent les pompiers. À Saintes, une nuit agitée pour une bonne partie de la ville et la grosse colère du maire et président de l'agglomération. Bruno Draperon déplore les importantes nuisances sonores survenues dans la nuit de mardi à mercredi et provenant de l'aire de Grand Passage de Diconche. Des personnes y célébraient un mariage sans avoir prévenu la municipalité. Le problème, c'est que de nombreux riverains ont dû subir la sonorisation beaucoup trop forte de cette grande fête malgré eux. Des nuisances sonores qui ont pourri la vie de nombreux Saintais malgré l'intervention de la police. Bruno Draperon ne compte pas en rester là. Il demande aux organisateurs de ce mariage de nettoyer les lieux et de payer les éventuels dégâts sur les équipements. Si ce n'est pas le cas, il fermera l'air et déposera plainte.
Oui, parce qu'elle est dans un état pitoyable, c'est lamentable, et il est hors de question que je dépense 1 € d'argent public pour remettre en état l'air. Donc soit nous ferons un conseil huissier et nous déposerons plainte contre l'organisateur, et tant qu'il n'aura pas payé la remise en état de l'air, je ne la rouvrirai pas. C'est des déchets partout qui jonchent l'air, on ne sait pas dans quel état on va récupérer une fois de plus nos compteurs électriques. À chaque fois, on a tous les ans, mais plus de 35 000 € de réparation sur ces compteurs qui sont détériorés par ceux qui les utilisent, donc il y en a marre. Donc c'est clair, à partir de maintenant, on rouvrira l'air pour les prochains, qu'à condition que ceux qui sont passés là aient payé les coûts de remise à niveau.
Vous allez déposer une plainte ?
Ben, j'attends, on va vérifier, parce qu'on va leur laisser crédit qu'ils vont peut-être faire le nettoyage, et si c'est pas comme ça nous convient, on fera constat huissier et dépôt de plainte. Et en plus, ils ne souhaitent pas quitter immédiatement, donc ces gens ne respectent absolument pas ni leur parole, ni les engagements. Donc on va attendre qu'ils partent, mais par contre on enclenche les procédures.
Dans ce contexte, la fermeté est donc la seule réponse possible pour préserver le bien-être de nos citoyens, écrit Bruno Draperon sur les réseaux sociaux. Un millier de personnes rassemblées place Colbert pour la journée nationale de mobilisation des syndicats. Hier, 5 fois plus de manifestants que pour la journée bloquons tout du 10 septembre ont répondu à l'appel de l'intersyndicale. Le député écologiste de Rochefort et du Pays d'Aunis, Benoît Biteau, était présent, tout comme le sénateur socialiste Michael Vallée et le vice-président de la région Rémi Justinien. Le dernier mouvement d'une telle ampleur date de 2023, lors de la réforme des retraites. Reportage Adrien Vivenne.
Jacques et Louise, un couple de retraités, se reposent sur l'un des bancs de la place Colbert avant de rejoindre le cortège.
Un citoyen qui ne se sent pas concerné aujourd'hui, il y a tellement de sujets qui sont à reprendre que bon, je pense qu'il devrait y avoir énormément de gens qui devraient aujourd'hui se retrouver dans les différents cortèges. Oui, ça j'en suis certain.
Pourtant, l'intersyndicale avait un slogan, les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit. Le mot d'ordre semble tout de même éloigné des considérations de Val, artiste plasticienne d'une 40aine d'années.
Parce que le capitalisme paroxystique mène au fascisme et à la guerre et se nourrit de la destruction. Donc il n'y a aucune valeur humaniste là-dedans. Et donc ils sont cuits. Ils sont cuits.
Jacques, retraité, ne croit pas au nouveau Premier ministre. Il faut une autre politique, des idées différentes selon lui.
Bah bien sûr, une autre politique. Un nouveau gouvernement, on s'en fout. C'est une autre politique. Après les gens, les personnes, c'est pas les personnes qui font la politique. C'est les idées, c'est ce qu'on met en place. Voilà, les hommes. On les pousse, les hommes, on en prend un autre. Et puis, non, ça c'est pas ça. C'est ce qu'on peut faire pour avancer un peu, puis que les gens puissent vivre décemment, quoi, au bout d'un moment.
Les revendications d'Emmanuel, un fonctionnaire d'une 40aine d'années, sont plus terre à terre. Il souhaite simplement que l'impôt soit mieux réparti et payé par tous et toutes.
Le principe de l'impôt, c'est que chacun paye en fonction de ses moyens. C'est le principe de base. Donc voilà, plus on monte dans les hautes sphères de la richesse, et moins les gens payent d'impôts en fonction de leurs revenus.
C'est quelque chose qu'il faudrait...
Voilà, c'est le principe de base déjà, que chacun paye des impôts en fonction de ses revenus, quels que soient ses revenus. Et pas qu'on exonère toute une partie des revenus pour éviter que les gens qui soient très riches payent de l'impôt.
L'argent semble être le nerf de la guerre pour beaucoup. Marjorie gagne tout juste assez pour ne pas avoir d'aide, mais pas suffisamment pour vivre correctement.
On est encore même dans un système où on se dit bah en fait il faut gagner moins pour être aidé, mais je veux pas du tout apporter ça comme valeur et comme fonctionnement. C'est pas du tout, moi je suis fière de travailler et je suis fière de faire des choses pour contribuer à la société, pour contribuer, pour donner. Et aujourd'hui, je puise dans mes réserves à partir du 12 du mois. Donc ouais, non, c'est trop dur.
Après les discours des délégués syndicaux, les participants au cortège se sont dégourdis les jambes avec le traditionnel tour en centre-ville.
Beaucoup de manifestants également à Saintes, environ 1200, et La Rochelle entre 2500 et 3000. Et selon l'Académie de Poitiers, le taux de participation au mouvement de grève des enseignants dans l'enseignement public est de 19%, précisément 16,34% dans le premier degré et 21,43% dans le second, selon le rectorat. La disparition de l'ancienne maire de Dolus-d'Oléron, Chantal Cancian. Elle avait dirigé la commune de 1995 à 2001. Sur les réseaux sociaux, le maire Thibaut Brechkoff rappelle qu'elle avait contribué à la valorisation des espaces publics et qu'elle était sensible aux mesures en faveur de la jeunesse et des aînés. Christophe Plassard à la rencontre des habitants. La permanence parlementaire du député Horizon de Royan-Marraine-Oléron est cet après-midi aux Essarts à la mairie de 14h à 15h. On se retrouve dans un instant après la pub midi 12.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
La ville de Rochefort passe sans trop d'embûches l'épreuve du rapport de la Chambre régionale des comptes. En général, lors de ces contrôles, l'institution est très pointilleuse et ne manque pas de souligner les manquements et anomalies. Le maire Hervé Blanchet a présenté au dernier conseil municipal mercredi soir les conclusions de ce rapport pour les exercices 2019 à 2023 et elles sont plutôt positives. La Chambre fait quelques remarques techniques pour améliorer les processus de gestion, mais dans l'ensemble, le rapport met plutôt en lumière une bonne gestion financière, ce que n'a pas manqué de souligner le premier magistrat de la commune.
C'est un point important regardé par les magistrats, de quelle manière la collectivité gère les finances publiques. Et on peut être fier de ce qui a été fait, fier de nos équipes, fier de nos ambitions, puisque c'est une gestion financière qui est saine. La Cour régionale des comptes le dit, une bonne maîtrise des charges de fonctionnement et l'optimisation des ressources et des recettes de gestion. Un excédent brut d'exploitation permettant d'investir largement, ça c'est nos choix budgétaires de désendetter la ville, une politique d'investissement volontariste pour la ville sur 850 euros par habitant, ce qui représente 50% de plus que la moyenne nationale. Des impôts stables pour la ville de Rochefort, alors vous avez des gens qui, on reçoit tous nos taxes foncières, ou en tout cas beaucoup, et des gens disent oui, ça a encore augmenté, la ville n'a pas augmenté la fiscalité depuis 2016. Donc là, on est sur la période 2019-2023, mais depuis 2016, on n'a pas augmenté la fiscalité. Ce qui augmente, ce sont les bases, l'État.
Pour autant, l'élu d'opposition Christophe Escuriol a pointé du doigt la dette de la ville, supérieure à la moyenne nationale, mais le maire Hervé Blanchet a lui rappelé que cette dette diminuait depuis plusieurs années.
La Cour pointe que dans la strate où on est, l'endettement par habitant de la ville de Rochefort est plus élevé que celui des autres villes, à hauteur de 25%. Voilà, même si la situation n'est pas du tout catastrophique, et il ne s'agit pas de dire ça, mais j'aimerais bien que vous exprimiez sur ce point-là.
Bon, l'interprétation que j'en fais, par rapport à 2014, donc, où il y en avait un endettement de 1437 euros par habitant, 10 ans après, on est à 1207 euros. Donc on a diminué, ce que je disais tout à l'heure, l'endettement de la ville de Rochefort.
Voilà. Nonobstant, on est toujours très supérieur à
parce qu'on a une politique d'investissement volontariste et que j'assume totalement.
Autre sujet longuement débattu au conseil municipal et abordé dans ce même rapport, les logements sociaux. La reprise de la construction est notée par la Chambre. Toutefois, la demande reste très forte à Rochefort, en particulier pour les T2. Mais pour l'équipe municipale, il est toujours très difficile de proposer ce type de logement. Écoutez Christophe Escuriol, puis Hervé Blanchet et les précisions du conseiller municipal Bruno Dutrex.
On a une difficulté de non-adéquation du parc locatif social entre des logements un peu grands, dont les personnes qui en sont en demande. Donc les chiffres, c'est une demande sur 3 est satisfaite pour les T4, et c'est vrai qu'une demande sur 14 satisfaite pour un T2, c'est très peu, enfin c'est évidemment insuffisant, on l'a noté. Voilà, et donc du coup, quelles sont les perspectives voilà, à l'échelle de la ville uniquement sur cette question-là de l'adaptation du parc.
Cette adéquation, malheureusement, je crains qu'elle ne soit jamais résorbée. Il y aura toujours un décalage. Il n'y a pas les moyens de construire aussi vite par rapport à la demande actuelle, notamment ce qui concerne les T2. Aujourd'hui, on a aussi des T4 et des T5 qu'on n'arrive pas à remettre sur le marché et il faut de l'argent aussi pour tout remodifier.
Notre parc locatif est ancien et a été majoritairement constitué dans des années où les familles étaient beaucoup plus importantes et beaucoup plus, restaient beaucoup plus longtemps ensemble. Aujourd'hui, la typologie de logement demandé est beaucoup plus petite. Les gens vivent de façon beaucoup plus séparée. Alors, on a regardé ce qu'on pourrait faire, mais c'est très onéreux de transformer un T5 en deux T2. Imaginez bien, au niveau des réseaux, des tuyauteries, etc. C'est compliqué. Alors, effectivement, depuis plusieurs années maintenant, on construit beaucoup plus de logements T2, T3 maximum, qui correspondent beaucoup plus aux besoins et à la demande. Mais les anciens logements, il faudrait les modifier, mais ça coûte extrêmement cher.
L'équipe municipale a également souligné que le taux de rotation des logements sociaux a été particulièrement faible depuis la crise du Covid, 11% avant la crise sanitaire, contre 6,5% aujourd'hui. Une quatrième fleur pour Rochefort, la cité de Colbert est distinguée par le jury national de villes et villages fleuris. En fin d'année dernière, le jury régional avait confirmé ces trois fleurs à ville et lui avait décerné le prix de la commune référente ville et villages fleuris en Charente-Maritime. Rochefort rentre donc dans le cercle des villes détentrices de la distinction maximale. On compte environ 300 villes en France, 4 fleurs.
Chaque semaine, retrouvez dans votre hebdomadaire le littoral de la Charente-Maritime, toute l'actualité de notre région.
À la une de notre confrère, Bassin de Marenne est maintenant un appartement parisien. Cette commune qui enchaîne les gros héritages rencontre avec le maire de ce village de 400 habitants. Les Matelas-Palmières, les acteurs locaux reprennent la main sur la baie de Bonance. La cogestion du site va être confiée à la commune et à trois de ses partenaires. Mais le projet de réserve naturelle nationale très contesté reste d'actualité. Et puis, Pierre Rochefortais, du mouton au gilet, le projet ambition de 3 entreprises. Entrepreneuse en Charente-Maritime, la laine de mouton est souvent jetée à la poubelle, d'où l'idée de cette nouvelle plateforme de valorisation.
Le littoral, c'est chaque semaine des reportages sur la vie locale, sociale, économique, politique et culturelle de la Charente-Maritime. Annonces légales, sorties ciné et loisirs, votre journal vous informe au plus près de l'actualité. Le littoral, en vente chaque vendredi chez votre marchand de journaux.
Demoiselle, interview.
Avec nous dans ce studio, Alain d'Alençon, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes vice-président de la Société de géographie de Rochefort, rédacteur en chef de la revue Rocafortis et commissaire d'une nouvelle exposition à découvrir absolument à la vieille paroisse à Rochefort. Cette exposition s'intitule Rochefort 1944-1946, Libération, Reconstruction. Pourquoi avoir déjà choisi ce thème ?
Eh bien, nous avons voulu apporter notre contribution à la commémoration de la 80e année anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été marquée par la capitulation de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que la libération, elle ouvre une ère nouvelle qu'on a appelée la reconstruction, sur la base du programme dit des Jours heureux, du Conseil national de la Résistance. Et nous avons voulu savoir comment les choses s'étaient passées à Rochefort en faisant une histoire locale, vivante, par le bas, en essayant de comprendre comment les Rochefortais, les Rochefortaises, les militants, les hommes politiques, les travailleurs, les patrons avaient abordé cette période.
Concernant tout d'abord la libération, Rochefort a été libéré en septembre 1944, mais vous me le disiez, en fait, les Allemands étaient tout autour.
En réalité, si Rochefort a été libéré en deux temps d'ailleurs, le 12 septembre, il se trouve qu'une partie importante du département est encore sous la coupe des Allemands, avec ce qu'on a appelé les poches de Royan et de l'île d'Oléron, et d'autre part la poche de La Rochelle de l'île de Ré. Et les Allemands sont tout prêts. Et ils vont rester en place jusqu'au 8 mai 1945, parce qu'il faut savoir que le département de Charente-Maritime a été le dernier à être libéré. La Rochelle a été la dernière préfecture à être libérée, bien après Strasbourg, par exemple.
Et donc, vous abordez longuement le thème de la reconstruction. Pourquoi avoir choisi de parler de la reconstruction 46-46 ?
Eh bien, justement, parce qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est à ce moment-là qui a été un moment décisif dans notre histoire, qui a été mis en place une nouvelle république sociale, un État social, dont malheureusement beaucoup d'éléments sont en train d'être détricotés depuis une vingtaine d'années. Donc il est important de rappeler tout cela, comment s'est mis en place la sécurité sociale, les indemnités pour le chômage, un système démocratique d'enseignement, etc.
On a aussi la reconstruction physique à Rochefort, parce qu'il y a eu beaucoup de dégâts.
Il y a eu beaucoup de dégâts, effectivement. Les Allemands ont saboté complètement les infrastructures portuaires. Ils ont incendié, dynamité toutes les usines, de telle sorte que l'activité économique est repartie très lentement à la Société nationale aéronautique du Sud-Ouest, qui est à l'origine du développement de l'orientation de l'aéronautique à Rochefort. Mais le port n'a pu être à nouveau utilisé qu'en 1949-1950, parce qu'il était complètement envahi par la vase et qu'il y avait des bateaux qui avaient été coulés par les Allemands à l'entrée et à l'intérieur.
Comment vous avez fait votre travail de recherche? Racontez-nous, parce que je crois que c'est 2 années de travail. Hein.
C'est quasiment 2 années de travail. D'une part, nous avons labouré toutes les archives, qui d'ailleurs sont très incomplètes, quelquefois contradictoires. Alors aux archives municipales, bien entendu, aux archives départementales, au SHD à Rochefort. Et puis nous avons essayé de retrouver des témoignages écrits oraux qui ont été enregistrés, qui sont toujours des vérités un peu reconstruites, mais qui donnent, si vous voulez, un caractère sensible, émotionnel, vous voyez, aux choses.
L'exposition présente des panneaux.
Oui.
On n'a pas que ça aussi, on a aussi des pièces.
Il y a aussi, effectivement, des objets qui sont présentés, des exemplaires de la presse, mais il y a quelque chose un petit peu plus original. C'est par exemple un drapeau sur lequel a été cousue une croix de Lorraine et qui provient des drapeaux qui ont été déposés à la mairie le 12 septembre. On projette également, c'est tout à fait méconnu, un film qui provient des archives des armées, de l'ECEPAD, et qui montre la libération de l'île d'Aix, qui montre les destructions à Rochefort. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que nous faisons cette exposition dans un lieu symbolique, qui a été la Bourse du Travail de 1900-1975. Or, c'est dans cette Bourse du Travail que se réunissait le Comité clandestin de libération. Et ça, c'est quelque chose que tout à fait inconnu.
On termine avec le côté pratique. Cette exposition, on la découvre donc ce week-end, c'est ça?
Oui.
À la vieille paroisse?
À la vieille paroisse. Elle va être inaugurée ce soir, mais elle est ouverte au public, donc demain après-midi, samedi de 14h à 18h, dimanche de 10h à midi et dimanche après-midi de 14h à 18h. Et ensuite, elle sera ouverte tous les mercredis après-midi jusqu'au printemps probablement.
Alain d'Alençon, merci. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Demoiselle, la météo.
C'est du beau temps encore, Pierre.
C'est du beau temps, exactement. Emmanuel, va falloir en profiter, hein, parce que ce week-end, ça s'annonce pas vraiment top au niveau des températures et du temps. Pour aujourd'hui, en tous les cas, vous le voyez, il fait beau, il va faire même très chaud, jusqu'à 34 degrés attendus. Vous aurez à Marennes et Saint-Pierre-de-Léron à 27 degrés, sur l'esplanade Kerémel de Kervenou-Royan, ou encore du côté de La Rochelle, on va relever 29 degrés. 31, ça sera pour Saint-Agnan, 33 du côté de Pessines et Saint-Saturnin-du-Bois, jusqu'à 34, donc attendu à Saint-Julien-de-l'Escape, Pont et Jonzac. Demain samedi, ça se gâte avec des averses orageuses, notamment le matin, et dimanche, quelques pluies fines attendues tout au long de la journée et un mercure en chute.
L'élégance, c'est d'abord une question d'harmonie. Alors pour mes fenêtres, mes stores et mes volets, j'ai choisi Storiste de France. Comme tout est fabriqué sur mesure et en France, je suis sûre du résultat et de la qualité de pose. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
La maison du store, Storiste de France, c'est 2 adresses. Chemin du Puy-Vineux à Rochefort, après le rond-point de l'Avion, direction La Rochelle, et 92 avenue de Bel Air à Saint-Pierre-d'Oléron.
Storiste de France. Fenêtres, stores, volets.
Conditions sur storistedefrance.com.